RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
Déjà 18h10, lors du 18-19 en région avec Alexis Claudretz.
Déjà 18h10, déjà mardi également. C'est vrai que le temps passe vite et cette semaine sera écourtée, vous le savez, avec le pont du 8 mai et de l'Ascension. On ne sera pas là pour vous accompagner avec nos programmes locaux mercredi et jeudi, mais on se retrouvera évidemment vendredi 18h10 pour un autre magazine régional. Mais avant cela, on va profiter de cette soirée tous ensemble, 18h10, 19h, en allant sur les pas des Huguenots. C'est le deuxième épisode de Mémoire chrétienne qui en parlera, puisqu'on l'avait déjà évoqué la semaine dernière avec Jean-François Boulanger. Un maire qui nous parle, puisqu'évidemment on ne coupe pas à la tradition. Nous serons avec Patricia Durin, l'édile de Léry, dans la Marne. Le journal régional, c'est votre rendez-vous à 18h30 avec l'information. On parlera des soirées The Schusen du côté du diocèse de Chalon. Et on reviendra aussi sur un événement, c'était le week-end dernier, la montée du club sportif Sedan-Ardennes de Régional 3 en Régional 2. Le stade Louis-Dugoguez et la pelouse du stade a été envahie au coup de sifflet final. Tout cela était bien encadré. Il y avait plus de 2000 supporters dans les gradins. C'était assez incroyable pour une équipe de ce niveau. Et puis, on fera évidemment des rencontres pour parler de la 35e édition du Festival Fury. Nous serons avec Jean-Marie Songy. Ça sera en toute fin d'émission. Avant cela, nous rencontrerons Hervé Chatriot, qui est à la direction des guerres de Champagne-Ardennes et qui évoquera Reims la Magnifique. Bien évidemment, il parle là de la gare de Reims. Il n'avait pas pu terminer son propos lors de sa première venue en studio. Il sera donc de nouveau avec nous d'ici quelques minutes. Et puis, on fera un zoom sur le Secours catholique, l'antenne de Cézanne, plus particulièrement avec une rencontre avec son responsable, Benoît Sangers. Voilà pour le sommaire de ce 18-19 en Champagne, ce mardi. Nous, j'allais dire comme tous les mardis finalement, on commence par un numéro de Mémoire chrétienne avec Jean-François Boulanger. La suite de mardi dernier, ce 7 mai. Jean-François, bonjour.
Bonjour.
Vous aviez ouvert la semaine dernière une nouvelle série. On avait prévenu que ce serait une micro-série.
Absolument.
C'est aujourd'hui le deuxième et dernier épisode, déjà. Dans notre dernière émission, nous avions commencé à parler d'un sentier de grande randonnée appelé sur les pas des Huguenots. Vous nous aviez expliqué qu'il était censé emprunter le chemin de l'exil pour ces protestants français qui, après la révocation de l'édit de Nantes, avaient dû, pour pouvoir vivre leur foi, partir à l'étranger, et notamment en Allemagne, où leur souvenir est resté très vif, notamment dans l'actuel Land de Hesse, où un musée huguenot allemand est ouvert depuis 1980 dans la ville de Karlshafen. Et vous avez conclu en disant que c'était là qu'était née l'idée de ce chemin de mémoire européen sur les pas des Huguenots. L'heure est donc venue, après ce petit rappel, de nous dire comment elle a pris forme.
Alors, elle a pris forme, effectivement, dans le cadre d'un programme européen. En cette période d'élection européenne, vous voyez, c'est un peu d'actualité. Ce programme européen s'appelle LEADER, LEADER signifiant liaison pour le L entre action de développement de l'économie rurale. Il s'agit d'un programme d'initiative communautaire en faveur du développement rural qui a pour but d'inciter et d'aider les acteurs ruraux à réfléchir sur le potentiel de leur territoire dans une perspective de plus long terme. Elle vise à encourager la mise en œuvre de stratégies originales de développement durable, intégrées, de grande qualité, ayant pour objet l'expérimentation de nouvelles formes de développement. Et là, effectivement, c'est un programme assez original. Et donc, dès 1997, le groupe d'action locale de la région de Burgwald, donc en Hesse, établit des contacts avec les pays de provenance des Huguenots dans le sud de la France, donc ces régions d'où 300 ans plus tôt, sur fond d'intolérance religieuse, les Huguenots partaient pour l'exil et s'implantaient donc dans plusieurs régions, dont cette région du Burgwald. Ces premiers contacts ont engendré un partenariat dynamique entre le Burgwald, dans la Hesse, et le Diois et le Val-de-Drôme, dans la Drôme. Et ensemble, ils réfléchissent sur l'initiative qu'ils pourraient prendre ensemble, et c'est ainsi que l'idée d'un cheminement européen de grande randonnée sur les pas du Huguenot entre le Dauphiné et Bad Karlshafen apparaît pour la première fois. Entre décembre 2004 et décembre 2005, quatre rencontres internationales ont lieu qui permettent de définir les objectifs communs, l'organisation et le plan de financement. On élargit d'ailleurs progressivement ces rencontres à la Suisse et à l'Italie. Donc, 4 pays sont impliqués, France, Allemagne, Suisse, Italie. Et le projet donc va se réaliser progressivement. On va obtenir différentes homologations, notamment l'homologation en tant que GR, ça sera le GR 965, sur les pas des Huguenots, c'est en janvier 2015. Alors, petite remarque, cette numérotation du GR est un clin d'œil à son illustre prédécesseur, le GR 65, c'est-à-dire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un peu le pendant protestant du chemin de Saint-Jacques. Et donc, la promotion du chemin passe aussi par des publications, des cartes, des guides. Il obtient finalement le label itinéraire culturel du Conseil de l'Europe avec la création d'une structure dédiée qui s'appelle l'Union internationale sur les pas des Huguenots et des Vaudois.
C'est donc un projet européen, Jean-François Boulanger. Comment se présente-t-il sur le terrain, entre guillemets, si l'on peut dire?
Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, le terrain, là, c'est le chemin, c'est clair. Mais sur le terrain, effectivement, il y a donc un cheminement qui se fait sur 1600 kilomètres, hein, à peu près. Donc, on part de Poët-Laval dans la Drôme. C'est une petite ville qui a un musée du protestantisme et qui d'ailleurs abrite un des plus anciens temples protestants de notre pays, installé dans une demeure datant du XVe siècle, transformé en temple au XVIIe. Il est ensuite constitué de 29 étapes pour la partie française, qui est longue de 374 kilomètres, qui, à travers les Alpes, vont jusqu'à Chambéry et jusqu'à la Suisse. On arrive en Suisse par Genève. Ça tombe bien, c'est un des hauts lieux du calvinisme et le lieu de refuge pour de nombreux protestants français à l'époque de la Révocation. Il traverse ensuite la Suisse pour arriver en Allemagne et continuer jusqu'à Bad Karlshafen, au total, donc, je l'ai dit, 1600 kilomètres. Et à cet itinéraire principal, sont venus s'ajouter divers chemins qui se greffent sur lui. Il y a par exemple le tracé de l'exode des Vaudois du Piémont et des Huguenots du Queyras et de l'Oisans, un chemin secondaire donc qui part de l'Italie du Nord où se trouvaient les Vaudois et rejoint l'itinéraire principal en passant en France par le département des Hautes-Alpes où il y avait des communautés protestantes donc dans cette région du Queyras et de l'Oisans. Il y a aussi un tracé qui part des Cévennes. Ça se comprend aisément. Le Cévennes, c'est un des hauts lieux du protestantisme, on l'a déjà dit dans cette émission, à propos du musée du désert. Et puis, il y a aussi un trajet qui part du Luberon, donc depuis Mérindol, où des Vaudois, c'est-à-dire ce groupe religieux italien qui annonçait le protestantisme, donc s'étaient installés après leur fuite d'Italie, et dont la population de Mérindol, donc, avait été massacrée pendant les guerres de religion. Et il y en a un autre qui part de la Méditerranée depuis le Gros du Roi.
Sur les pas des Huguenots est donc un projet européen, encore une fois. On le voit par l'espace géographique qui l'embrasse. Est-ce aussi visible dans ses structures?
Oui, alors elles sont typiquement européennes avec tout ce que ça implique. Hein. C'est-à-dire que chaque pays a une structure nationale de type associatif ou de fondation qui est chargée du projet dans sa nation précise. Et ce sont ces structures nationales par leur organe de décision qui décide de l'ensemble des actions menées dans le cadre du projet de coopération. Et en octobre 2015 avait été créé à Genève l'Union internationale sur les pas des Huguenots et des Vaudois. Donc c'est une association loi 1901 de droit français qui a son siège à Dieulefit dans la Drôme. Et dans cette union sont présentées les 4 structures nationales, françaises, allemandes, italiennes et suisses. Mais les propositions et orientations préconisées par cette union internationale doivent être validées par les 4 instances internationales pour devenir opérationnelles. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de droit de veto, si je puis dire, comme dans l'Union européenne.
Quelle valeur ce projet européen s'efforce-t-il de transmettre alors?
La charte des valeurs commence d'abord par rappeler le passé historique qui est la base du projet, mais elle débouche donc sur l'énoncé de valeurs qui concernent en fait la société contemporaine. Je cite « En mémoire du passé ». Les partenaires s'engagent à être tolérants dans leurs relations et à faire de la tolérance le fil rouge identitaire de leurs partenaires. Deuxièmement, le projet se situe au-delà des clivages de partis et est indépendant de toute confession. Troisièmement, en résonance avec les idées véhiculées par l'agenda de Rio de Janeiro, les acteurs du projet intègrent la notion de durabilité sociale, écologique et économique. Donc vous le voyez, ce sentier de mémoire s'inscrit dans le passé protestant, mais il met en place une continuité historique qui, au nom de ses valeurs, débouche sur le monde actuel et une certaine idée de laïcité.
Fin de série aujourd'hui. Merci Jean-François Boulanger de nous avoir emmenés sur le chemin de mémoire, sur les pas des Huguenots. On vous dit à très bientôt avec de nouvelles découvertes, de nouvelles mémoires chrétiennes à nous partager.
Absolument, à très bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Notre mère est une femme. Ce mardi, c'est le rendez-vous aux alentours de 18h20, comme à chaque magazine régional. Patricia Durin, l'édile de Léry dans la Marne, est avec Jean-Pierre.
Patricia Durin, bonjour.
Bonjour, monsieur Benoît.
Merci d'être avec nous aujourd'hui pour présenter votre action et surtout celle de la commune de Léry. Alors, pour nos amis des Ardennes en particulier, pouvez-vous nous dire où se trouve exactement Léry et combien y a-t-il d'habitants à Léry ?
Alors, Léry est une commune dans la Marne qui est située à 23 km à l'ouest de Reims et qui est dans le Tardenois. Alors, le village de Léry, on le voit quand on prend l'autoroute de Reims à Paris, il y a une aire d'autoroute qui s'appelle l'aire de Léry, donc qui est sur notre commune. Donc voilà, on peut peut-être un peu mieux la situer.
Alors, justement, puisque vous parlez de l'autoroute, Patricia Durin, on se dit au fond, quand on est à la ville, à Reims ou ailleurs, et qu'on voit des beaux villages comme les vôtres, est-ce qu'on n'a pas envie d'habiter à Léry ? Est-ce que vous avez senti, depuis quelques années, le besoin d'un certain nombre d'habitants de venir s'installer, d'habiter dans votre commune ?
C'est vrai qu'avec le Covid, on a vu plus d'habitants revenir sur nos communes, et on voit effectivement des habitants de la ville qui viennent chercher la tranquillité dans nos petites communes. Mais il faut savoir qu'on est une commune très rurale, on a peu de, je dirais, de maisons disponibles. Il y a quelques constructions, il y a une construction en cours et on n'a que 89 habitants. Il n'y a pas de commerce, donc on est vraiment très au calme.
Oui,
voilà.
Mais c'est quand même, Patricia Durin, un beau village, un beau cadre de vie, Léry. C'est quand même agréable. Et vous-même, qu'est-ce qui a fait un jour que vous avez souhaité être maire ? Ça fait partie de votre ADN ?
Alors, je dirais que la politique m'a toujours intéressée. J'étais dans une famille avec un papa qui était conseiller municipal à Reims. Dès l'âge de 18 ans, j'ai tenu des bureaux de vote à Reims. Et quand je suis arrivée dans cette commune de Léry en 83, bon, j'ai pas été tout de suite conseil, mais au fil de l'eau, dès 2000, je suis rentrée au conseil en tant que première adjointe. Mon mari avait déjà un mandat. Et puis, j'ai fait deux mandats de premier adjoint et en 2014, j'ai été élue maire. Alors, pourquoi je dirais que ça m'a attirée être maire d'une petite commune ? Parce que on est sans étiquette, on ne dépend pas d'un parti et on est au service de tous les habitants. Et je ne voulais pas faire de la politique en étant, encadrée où on m'impose un peu, des idées. Je suis au service de tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant quand on est maire d'une petite commune.
Et vous les connaissez, vos habitants ?
Ah bah oui, quand même. Vous savez, il y en a 89, donc il n'y en a pas beaucoup. Donc effectivement, habitant dans le village depuis 83, effectivement, je les connais.
Ça fait partie, ça fait une grande famille avec aussi, on peut le dire parce que les maires nous le disent dans chaque émission, parfois ils se font quand même interpeller souvent des gens qui, de plus en plus, pas à Léry, je ne parle pas de Léry, mais dans des communes où ils rouspètent, comme disait Gérard Larcher, le président du Sénat, on est à portée d'engueulade et les gens vous disent, mais oui, il est là, il y a le goudron qui n'est pas fait, il y a ça qui n'est pas fait. Bon, vous devez aussi faire face à quelques récriminations, même si beaucoup de gens sont contents.
Alors, tout à fait. En fait, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a, un grand individualisme des habitants. Et puis, dans nos petites communes, comme les nôtres, il y a des familles qui sont des agriculteurs, des viticulteurs, qui ont toujours vécu dans ces communes, avec certains désagréments, on ne peut pas le nier. Vous savez, en période de moisson, en période de vendange, ça fait du bruit, il y a des tracteurs qui passent. Et les nouveaux habitants qui arrivent veulent absolument le calme, donc c'est pas toujours, il faut faire comprendre à tout le monde ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Voilà. Par exemple, une des choses qui est le moins facile, c'est de faire respecter à tout le monde qu'on peut pas tondre à n'importe quelle heure. Voilà. Son jardin, pas le dimanche après-midi. Voilà. Donc le maire, oui, a parfois doit aller voir ses habitants, doit faire, la police. Oui, ça fait partie de nos missions pour que tout le monde vive sereinement ensemble.
Alors, Patricia Durin, c'est vrai aussi, alors d'un mot, il y a aujourd'hui le Grand Reims. Est-ce que le maire est quand même le patron ? Est-ce que vous êtes la patronne quand même dans votre village ? Est-ce que le maire, c'est quelqu'un quand même qui continue d'être reconnu ?
Ah, tout à fait. Tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre commune, on était dans une intercommunalité où il y avait déjà beaucoup de compétences qui étaient au niveau de l'intercommunalité du Tardenois. Donc, passer dans le Grand Reims n'a pas changé.
Ça s'est fait naturellement.
Voilà, ça s'est fait naturellement. On était déjà habitués à discuter de projets, lesquels on priorisait, sur quelles communes, etc. Donc, on est notre patron à partir du moment où c'est nous qui devons, avec nos habitants, déterminer les projets qu'on met en avant, ce qu'on fait, ce qu'on demande au Grand Reims de faire pour nous. Donc, on reste tout à fait notre patron. Et vis-à-vis des habitants, ben, ils viennent nous voir, nous. Le Grand Reims, certes, c'est...
On commence par vous.
Énormément. Voilà, on commence par nous et c'est nous qui remontons derrière.
Avez-vous des projets, je vous interromps, Patricia Durin, et le temps passe vite, il nous reste 3 minutes, mais des projets en cours qui viennent d'être achevés ou des projets à moyen ou à court terme pour la commune de Léry?
Alors, il y a eu un gros projet qui avait été fait, qui s'est terminé en 2019, c'est la restauration de l'église. Et ça, c'est grâce au Grand Reims. Bon, on avait une église cassée, donc on a pu faire refaire. Là, on a en cours des travaux qui sont la rénovation d'une rue qui est programmée normalement en 2024-2025, la restauration complète d'une rue. On a la végétation d'un cimetière, on a fait des petits travaux d'aménagement dans notre mairie. Donc, on fait des choses.
Alors, évidemment, la question qu'on pose souvent et qui refroidit un certain nombre de gens qui refusent maintenant d'être maire, c'est concilier la vie familiale avec le fait d'être maire ou la vie professionnelle. Vous, vous avez réussi.
Alors, moi, j'ai réussi, mais moi, maintenant, je suis retraitée. Donc, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que pendant un mandat, je travaillais encore. Le premier mandat, je l'ai fait en travaillant. Le deuxième, je suis à la retraite pour pouvoir faire plus de choses. Et bon, quand on vit sur le territoire, oui, on arrive à concilier les deux. Bon, mais effectivement, ça prend un peu de temps. Surtout quand vous êtes une petite commune comme la nôtre, on a une secrétaire un après-midi par semaine. Donc, on gère beaucoup de choses avec son adjoint, donc on est en prise directe. Oui.
Comment s'appellent les habitants de Léry?
Alors, je crois qu'ils n'ont pas de nom. On dit les habitants de Léry, je ne l'ai jamais trouvé, on m'a déjà posé la question.
Ah bon?
Et je n'ai pas la réponse. Voilà.
Eh bien, on va lancer un concours sur RCF, parce qu'on est appelé à se revoir, Patricia Durin. Vous savez, 250 maires dans l'année, il va falloir que j'en fasse tourner un certain nombre, et puis même dans d'autres émissions. Pour terminer, une question que je pose à chaque maire. Êtes-vous une mère heureuse? Est-ce que vous êtes contente d'être mère?
Oui. Et je dirais que aujourd'hui, alors c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours, mais on peut faire quand même beaucoup de choses. On fait partie d'un Grand Reims qui nous permet de faire beaucoup de choses qu'on n'aurait pas pu faire sans Grand Reims. Et je dirais que même si c'est pas tous les jours facile, oui, je suis une mère heureuse.
Merci en tout cas Patricia Durin, on aura l'occasion de vous retrouver. Rappelons que vous êtes maire de Léry dans le département de la Marne et que vous étiez notre invité. Votre maire nous parle, vous nous avez parlé franchement et nous sommes heureux de vous retrouver certainement dans quelques semaines sur l'antenne de RCF. On vous souhaite une très bonne journée Patricia Durin.
Merci de votre interview et à très bientôt. Au revoir, monsieur.
À très bientôt sur RCF.
On a de nouveau pris un petit peu d'avance ce soir, il est bientôt 18h30, pas tout à fait, mais on lance quand même le jingle, c'est l'heure du journal régional. Les titres de ce mardi 7 mai jusqu'au 25 juin, le diocèse de Châlons vous propose plusieurs soirées pour découvrir la vie de Jésus à travers la saison 3 de la série événements The Chosen. Présentation. Le club sportif Sedan Ardennes a validé sa montée en Régional 2 ce week-end. Retour sur ce match pas comme les autres.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Arrivée en France en décembre dernier, la saison 3 de la série grand public The Chosen connaît toujours un grand succès. À cette occasion, le diocèse de Châlons propose à partir d'aujourd'hui plusieurs soirées pour découvrir la vie de Jésus, comme nous l'explique Yannick Cossier, délégué diocésain pour l'unité des chrétiens.
C'est la méga série américaine. Plus de 500 millions de vues au box-office, ça dépasse toutes les espérances. C'est une initiative œcuménique. Les catholiques américains et les évangéliques américains se sont vraiment mis d'accord. C'est vraiment un outil d'évangélisation. Le but, c'est vraiment que les personnes puissent rencontrer le Christ, faire une expérience, une rencontre. Ça émerge bien. Un Jésus à la fois humble, discret, mais en même temps puissant, qui guérit, qui écoute beaucoup. Enfin, c'est vraiment un Jésus à la fois très humain, c'est très bien rendu. Et en fait, l'accent est mis sur les personnages, les personnes qui l'entourent, qui le côtoient, qui vivent avec lui, les apôtres, les disciples. Donc c'est vraiment très très intéressant.
8 soirées pour les 8 épisodes de la saison 3 et comme chaque année, la soirée sera organisée en 4 étapes.
Dans un premier temps, on visionne l'épisode qui dure 30, 40, 45 minutes. Ensuite, on prend pendant le générique, la musique, etc., quelques minutes d'appropriation personnelle. Ensuite, on part en petit groupe de 6, 8 personnes avec un animateur. Un temps d'échange, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a pas les sachants d'un côté et ceux qui découvrent de l'autre. On est tous sur un pied d'égalité par rapport à ce qu'on a ressenti, etc. Et ensuite, quatrième et dernier temps, en grand groupe, un quart d'heure, 20 minutes, avec un pasteur ou un prêtre ou un laïc en mission ecclésiale.
Des propos recueillis par Christopher Fausten, première soirée ce mardi 7 mai 20h15 à la salle des Récollets à Châlons en Champagne. Il est encore temps de s'y rendre bien évidemment. Les BTS Communication de Saint-Michel à Reims organisent les 11 et 12 mai de 10h à 18h à l'Hippodrome de Reims, un marché artisanal regroupant une trentaine d'artistes de passions et métiers différents. L'objectif de ce marché est de permettre aux artisans locaux de se faire connaître et d'élargir leur clientèle. Bijoux, tailleurs, verriers, il y en aura pour tous les goûts. L'entrée est gratuite. Rendez-vous samedi et dimanche de 10h à 18h à l'Hippodrome de Reims. Sans transition, on parle sport désormais.
Oh là là, oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? On les a chamboulés. Oh là là, vivant.
Après son succès 4 buts à 0 face à l'Entente Charleville samedi, l'ambiance était à la fête dans le vestiaire du club sportif Sedan Ardennes. Cette nouvelle victoire assure aux Sangliers la première place de la poule A et une montée en Régional 2, de quoi satisfaire le capitaine Axel Villière, soulagé et ambitieux pour la suite.
On a eu un peu de pression, ouais, c'est vrai, parce qu'il y avait plus de monde que d'habitude, forcément. On savait qu'il y avait un résultat à aller chercher, à faire. Après, le travail de l'équipe a été fait. Franchement, tout le monde était confiant de nos forces. Et on termine à 4-0, donc c'est le principal. Voilà, la fête est belle. Il y a plein de choses qui se passent dans ma tête, là. Je me suis revu il y a 15 ans plutôt. J'étais petit, j'allais en tribune et je voyais les joueurs sur le terrain. Jamais je m'étais dit que j'y serais un jour. J'y suis. On a la chance de vivre une montée. C'est quelque chose d'incroyable. C'est pas tous les ans, à mon avis, qu'on montera, j'espère. Mais là, franchement, c'est un gros sentiment, même pendant le match, quand on entendait les supporters. Il y a eu plusieurs moments où je me suis arrêté et je me suis dit, waouh, c'est quelque chose et il faut profiter de ces moments-là. Bien sûr, cette première montée, elle en appelle d'autres. Là, c'est la première étape, c'est des grandes étapes, c'est-à-dire toute une année, mais la première est faite. La saison prochaine, on remettra le couvert, on sera là, je serai là, normalement, si tout va bien. Pour jouer la montée en R1, hein. Faut remonter au plus vite possible, c'est l'objectif du club. Claire, il est connu. Hein. Cette année, ça s'est bien passé, l'année prochaine, on va tout faire pour remonter directement.
Si le coach Amadou Kaba se projette aussi sur la suite, il prend tout de même le temps de savourer cette montée.
Je suis vraiment très très fier d'eux, parce que c'est pas facile de jouer en équipe première à cet âge-là. De chaque week-end, attendre la venue d'un joueur, on sait pas forcément comment ça se passe. Faut vraiment savoir, même si personne ne le saura, parce que personne n'est à l'intérieur du club. On avait vraiment, avec les rétrogradations de R1, de N2, de R1, de R3, on a vraiment vécu un été très mouvementé. Et puis la création de cette équipe, elle s'est fait franchement au mois d'octobre, hein. Avec la restriction des mutations, franchement, c'est une fierté totalement. Avec tout ce qu'on a vécu, c'est une fierté, avec l'ensemble du staff et puis l'ensemble du club, c'est une fierté d'en arriver là. Ouais, je projette, tout coach se projette sur la suite. On sait très bien que ça sera sur un championnat R2, avec un championnat où on sera encore beaucoup plus attendu, où on n'a pas le droit d'aller erreur comme cette saison. Donc voilà, comme j'ai dit, il faut qu'on profite franchement ce week-end. À partir des joueurs qui arrivent, on va essayer de se peaufiner sur ce championnat-là. Parce que comme j'ai dit, le Sedan doit être dans un championnat qui correspond.
À 3 journées de la fin de la saison, le club sportif Sedan Ardennes est toujours invaincu et compte pour le moment 57 points après 21 journées. Pourvu que ça dure, la belle aventure. En tout cas, tout le monde fait tout pour. Le président de l'association CSSA, Daniel Guérin, a présenté hier soir les contours du futur du club lors d'une conférence de presse. On aura l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions. Ainsi se referme ce journal ce mardi. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Dans cette deuxième partie d'émission, on retrouvera Jean-Marie Songy pour évoquer la 35e édition du Festival Fury. On aura également Hervé Chatriot qui reviendra sur Reims, la magnifique, un ouvrage consacré donc à la gare de Reims. Et puis tout de suite, on prend la direction du sud-ouest Marnais avec Christian Lanciot qui est parti à la rencontre de Benoît Sanguers, responsable de l'équipe locale du Secours catholique de Cézanne.
Bonjour Benoît.
Bonjour, bonjour à toutes les auditeurs.
Benoît, vous allez nous parler un petit peu de vous. Avant qu'on parle du Secours catholique, vous avez pris les rênes de, on peut dire, la responsabilité de l'équipe locale de Cézanne il y a maintenant un an et demi. Dans quelles circonstances ?
Suite à un départ de santé de la responsable où j'ai travaillé un peu avant, j'ai pris maintenant la responsabilité.
On peut la citer ?
Oui, bien sûr, Jeanne Davin.
Oui, qui a beaucoup donné pendant plus de 10 ans, je crois.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Je vous demande comment vous êtes venu, donc c'est par elle. Donc c'est en fait, elle vous a fait une demande.
Tout à fait. Un week-end de la foire des associations, elle m'a expliqué qu'elle avait besoin d'un jardinier et qu'elle était en manque de jardinier pour créer, pour continuer le jardin partagé du Secours catholique de Cézanne.
Bien, on parlera tout à l'heure de cet atelier-là, donc un des ateliers. Donc vous avez donc répondu à l'appel.
Tout à fait.
Et alors vous avez mis en place une petite équipe alors ?
Oui, nous sommes 3 pour l'instant. Et si vous voulez jardiner et que vous n'avez pas de jardin, ben nous accueillons les bras ouverts.
Pendant qu'on y est, on va en parler du jardinage, puisqu'il y a d'autres ateliers. Mais alors celui-là, il a lieu quand et comment ça se passe alors ?
Il a lieu le samedi de 10h à midi. Vous arrivez avec des bottes, bien sûr, s'il pleut. Sinon, on a des outils perso et puis on vient jardiner, récolter les légumes quand c'est la saison.
Et ces légumes qui sont récoltés, ils sont donnés aux accueillis ?
Oui, tout à fait, aux accueillis. Et puis si on peut. Si on en a trop, on peut aussi faire un petit repas organisé, voilà, partagé, et puis partager un moment avec les légumes du jardin.
Donc on peut dire que vous faites un peu un appel au peuple. Alors, si des personnes se sentent un peu une âme de jardinier, ils viennent avec leurs bottes, leurs outils, le samedi matin, alors l'adresse.
C'est 107 rue Saint-Fiacre.
207.
207, oui, excusez-moi.
On continue, donc, maintenant qu'on a parlé du samedi matin, il y a d'autres activités.
Le lundi, l'apprentissage de la lecture qui a lieu à la maison de retraite.
Le Niavia.
Voilà, de 17h à 18h. Avec Françoise Ruel.
Ça concerne des personnes qui vraiment ont des difficultés à lire, quoi, alors. Et donc, elle leur apprend le béaba et puis ça se passe bien, finalement.
Oui, en tout à fait. Il y a un petit groupe de 5 personnes, je crois. Et oui, ça se passe bien. On en a des échos. C'est sûr qu'aujourd'hui, ils en sont très ravis et ça les motive pour le futur, quoi.
Bon, pour l'instant, on reste au français. On parle pas de langue étrangère pour l'instant.
Non, pas tout à fait. Oui, c'est vrai qu'il reste au français et c'est la base du français.
D'accord. Bien, alors, donc on a dit ça, c'est le lundi, donc au foyer Avia, donc de 17h à 18h. Bon, là encore, donc, vous proposez à toutes les personnes qui voudraient y participer à le faire.
Oui, tout à fait. Alors ça, faut venir nous joindre au 03 26 80 57 78. On vous remettra en relation avec la personne concernée qui s'en occupe.
On a parlé du samedi matin, l'atelier botanique, on va dire, l'apprentissage à la lecture. Alors après, au milieu de semaine, il y a le mercredi.
Il y a le mercredi. Alors le mercredi, c'est un rendez-vous pêle-mêle pour ceux qui sont doués avec leurs mains. Nous avons plein de matériel. Vous pouvez arriver les mains vides. On a plein de choses, des mêles, des laines, des... Voilà, si vous avez été créatif. Et puis, autour d'un café aussi, il n'y a pas besoin de venir créer, il y a aussi un petit café qu'on offre chaleureusement, et puis parler autour d'une table, ça fait toujours du bien d'entendre, puis de se confier à des gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on a au fil des moments, on se connaît.
Bon, Benoît, merci. Pour les personnes qui voudraient, donc on rappelle l'adresse, donc 207 rue Saint-Fiacre à Cézanne, et le numéro de téléphone
0320 26 80 57 78.
Merci Benoît Sanguers et Christian Lanciot, bénévoles à RCF Cœur de Champagne, ensemble depuis Cézanne. L'actualité du Secours catholique est à retrouver dans l'émission Révolution fraternelle sur les ondes de RCF en région et en podcast sur le site rcf.fr.
Le 18-19 sur RCF.
Un invité en studio avec Jean-Pierre dans ce magazine régional ce mardi. Pour terminer un propos entamé il y a quelques jours, Jean-Pierre, avec qui êtes-vous ?
Avec nous aujourd'hui, Hervé Chatriot de la direction des gardes de Champagne-Ardenne. Hervé Chatriot, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on vous avait retrouvé il y a quelques temps dans une première émission oui. où on découvrait votre livre, j'allais dire, magnifique, un magnifique livre. Mmh. C'est Reims la Magnifique, c'est le nom de la gare de Reims qui a toute une histoire. Et ce livre est exceptionnel parce qu'il raconte l'histoire d'une gare depuis l'origine, le chemin de fer. On avait évoqué dans la précédente émission la création de cette gare, 1854, qui avait bouleversé la ville de Reims. C'est une arrivée exceptionnelle, l'arrivée du chemin de fer. Quelles sont les grandes dates que vous retenez, les grands moments de cette gare de Reims?
Alors, toute la constitution de l'étoile ferroviaire avec les différentes lignes, ça a été un grand bouleversement et ça a vraiment été quelque chose de très important sur le développement économique. Après, ce que j'en retiens, c'est que la gare de Reims, elle a traversé aussi notre histoire et l'histoire aussi des Rémois. Et je pense surtout aux guerres. On pense souvent à la première et la deuxième guerre, Jean-Pierre.
Bien sûr.
Mais il y a aussi la guerre de 1870.
La guerre de 1870, c'est vrai qu'elle passe plus.
La gare de Reims a été traversée par plusieurs guerres.
Et bien entendu, à chaque fois, des dommages considérables. Il a fallu reconstruire, il a fallu refaire cette gare.
Oui, mais il y a eu aussi de beaux faits d'armes. Il faut savoir que, par exemple, en 1870, le chef de gare, un certain monsieur Mencier, eh bien, il va entreprendre une expédition et il va aller même récupérer du matériel aux Prussiens. Donc, il part à l'assaut. Et d'ailleurs, il aura donc la Légion d'honneur pour fait de guerre. Ce sera le premier chef de gare pour avoir la distinction d'être chevalier de la Légion d'honneur pour fait de guerre.
C'est incroyable. Alors, c'est vrai qu'on a dans une gare aussi toute l'évolution à la SNCF, évidemment. Avant, il y avait des compagnies, on pourrait y revenir largement, du matériel, machines à vapeur, puis ensuite les trains, puis aujourd'hui le TGV. Donc, quelle évolution! Mais en même temps, c'est vrai que votre livre nous apprend quelque chose sur la ville. D'ailleurs, vous avez cherché des archives dans la gare, mais il y en avait peut-être peu. Mais vous avez, dans la presse locale ou à l'extérieur, par des rencontres avec Patrick Demuy, avec Pierre-Emmanuel Tétinger, ouvert des espaces et des horizons qui donnent à votre livre une dimension beaucoup plus grande que simplement l'histoire du bâtiment lui-même.
Oui, je voulais pas me rester sur le côté bâtiment, où finalement il n'y aurait pas eu de vie. J'ai voulu savoir quelle est la vie qu'il pouvait y avoir. Donc j'ai consulté énormément de documents, mais également j'ai fait de très belles rencontres. Et ça m'a permis de découvrir certains faits divers ou de choses totalement incongrues.
L'arrivée de Buffalo Bill, c'est le vrai Buffalo Bill.
Ah,
c'est pas Buffalo Bill, c'est en quelle année alors?
1905, William Cody.
Il arrive en train.
Il arrive en train, mais pas en seul train. Il y va 3 trains spéciaux, 65 wagons, 800 hommes, 500 chevaux. Donc c'est quand même une belle logistique.
Mais alors les chevaux étaient dans les trains?
Ah oui.
Bien extraordinaire.
Il faisait une tournée. C'était une tournée d'exhibition. En fait, c'était un spectacle qu'il faisait de ville en ville. Donc il est venu à Reims pendant 3 jours. C'était au mois de juillet. Et c'était un spectacle énorme. Énorme. Et tellement extraordinaire que les journalistes d'époque diront « Il a été possible de faire le tour du monde en 80 jours. Nous, à Reims, on a pu le faire en 2h30. »
C'est un spectacle. On parle aujourd'hui des grands spectacles comme le Puy du Fou, comme ailleurs. Là, il y avait une imagination, une créativité exceptionnelle avec Buffalo Bill.
Exactement. C'était une démonstration avec les chevaux de tir exceptionnels. Vous aviez en fait une pléthore de nationalités. Vous y aviez des Japonais qui côtoyaient les Chinois ou alors les Indiens. Il y avait des tribus d'Indiens. Il y avait 86 Indiens qui se sont venus et montré leur talent, je dirais, équestre ou au tir.
Et ils sont arrivés, bien sûr, à la gare de Reims. Il y a eu sans doute, bien sûr, Hervé Chatriot, des présidents de la République qui sont venus, des personnalités importantes qui sont passés par la gare, évidemment.
Oui.
Vous en avez quelques-unes en tête.
Oh oui, moi ma préférée.
Ah, dites voir, quelle est votre préférée?
Alors c'est Nikita Khrouchtchev, qui a été reçu d'ailleurs par Jean Tétinger.
Absolument.
Et en fait, il est reçu dans les années 60.
Il était arrivé en train, Nikita Khrouchtchev.
Ah bah, bien sûr
qu'il voyageait en train.
Oui. Il voyageait en train. Il faisait tout un parcours au niveau de la France.
Pas d'avion pour Nikita Khrouchtchev. Il a pris, bon, pour train aller aux États-Unis, il est allé une fois.
On va dire train plus avion.
Train plus avion. Mais c'était un événement.
C'était un événement. Et il a été particulièrement reçu. Et le détail qui est assez amusant, c'est que c'était à cette époque-là la fin des locomotives à vapeur. Mais il fallait faire bonne figure à Reims. Du coup, on les a repeintes, les locomotives à vapeur. Mais uniquement que du côté où elles auraient pu être visibles.
Ah, mais ça, c'est les économies de la SNCF. Voilà. On peint d'un côté le wagon, mais il fallait pas tourner de l'autre côté.
Exactement. Bon.
Mais alors, c'était des beaux wagons tout rutilants, on imagine.
Ah bah oui, oui, tout à fait. Mais au-delà, il fallait pas donner l'impression que la France, que la ville, j'aurais un peu négligé son matériel. Donc, il fallait faire bonne figure. Et pour faire bonne figure, eh ben, même sur les anciens matériels, eh ben, on leur donnait un petit coup de jeune, mais que d'un côté visible, c'était vraiment que pour la forme.
Alors, évidemment, la gare, quand on regarde, on se dit, y a rien, on rentre, on prend son billet, on est sur le quai, bon, y a rien à voir. En fait, il y a toute une logistique, bien sûr, à la fois aujourd'hui technologique, et puis il y a aussi la rotonde, enfin, on refait aussi des trains, on les entretient, et puis il y a le fameux Vladimir qui reste quand même la locomotive. Dans une gare, on aime conserver un train.
Oui. En fait, grâce à l'impulsion de Corinne Deville Tétinger, la mère de Pierre-Emmanuel Tétinger, on a pu garder la 8e locomotive au monde, la 140C, donc 313. Il ne reste plus que 8 au monde. Et en fait, elle a une histoire assez fantastique. Et donne d'ailleurs, dans cette gare où tout le monde est pressé, quelque chose qui est assez affectif, sensitif. Et c'est quelque chose qui est quand même remarquable d'avoir ça en gare.
Combien, alors vous n'avez peut-être pas le chiffre en tête, de personnes passent, par exemple dans la gare centrale, on ne va pas parler de la gare TGV à Besançon, mais la gare centrale de Reims, par an, il y a plusieurs dizaines, centaines de milliers de personnes.
On dit souvent, on a à peu près à 4 millions de voyageurs par an, et où on rajoute peut-être 1 million de personnes qui ne font que de transiter par la gare, de traverser pour aller de quartier à quartier.
Alors il est vrai qu'avec les travaux, avec l'esplanade aujourd'hui, il y a une ouverture bien sûr sur cette gare. Vous êtes, on peut dire, amoureux des gares. Vous aimez les gares.
Oui. J'avoue que j'y peux rien. C'est pas ma faute. Je suis tombé comme ça.
Et pas seulement celle de Reims. Vous avez été à Charleville, Revin, enfin, vous êtes allé ailleurs. Mais celle de Reims particulièrement.
Oui, c'est vrai que j'ai un certain attachement à cette gare. Alors, c'est peut-être son histoire, son implantation. J'ai eu aussi un attachement au niveau de la gare de Charleville, avec la couleur de ses volets, ses menuiseries, où j'ai été assez sensible. Et peut-être, voilà, simplement que je puis rester un peu plus longtemps à la gare de Reims et je me suis un peu plus pris d'affection. Voilà.
Alors, on termine parce que le temps passe très très vite. On fera une troisième émission un autre jour. Je le signale, on l'avait déjà dit dans la première, en dessous de la gare de Reims, et il y a des adeptes du sport, du tir. Il y a un stand de tir juste en dessous des tickets quand les gens passent au-dessus. Ça, les gens ne le savent pas.
Les balles sifflent sous la salle des pas perdus. Alors effectivement, c'est du tir sportif, que ça soit à pistolet ou
on
en
les
carabine.
Retrouve. Merci Hervé Chatriot de la direction des gares de Champagne-Ardenne d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre Reims, la magnifique. J'allais dire bon, c'est banal, mais c'est un livre magnifique lui aussi. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Merci à vous.
Merci à tous les deux et si vous voulez retrouver l'émission précédente avec Hervé Chatriot, vous pouvez vous rendre sur le site rcf.fr dans la rubrique programme. Vous retrouvez toutes les interviews dont vous avez envie.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Pour terminer ce magazine régional, ce mardi, on retrouve Christopher Fausten depuis le studio de RCF Cœur de Champagne, puisque le 4 juin prochain, à Châlons-en-Champagne, débutera la 35e édition du Festival Furie.
Durant 5 jours, 28 compagnies se produiront dans tout Châlons-en-Champagne. Bonjour Jean-Marie Songy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'association Furie et du Palc. Évoquons ce Festival Furie qui, on peut le dire, Jean-Marie Songy, est une véritable institution artistique.
Oui, c'est bien d'être devenu une institution parce que ça nous permet de pouvoir progresser, s'installer plus facilement aussi avec les représentants de l'autorité, parce que ce festival est dans l'espace public, donc c'est toujours une histoire, une aventure pour obtenir globalement les autorisations, oui. Parce que on a l'impression que tout ça est un peu olé olé, mais non, on y travaille depuis d'ailleurs la première édition, même si depuis 35 ans les choses ont bien changé en matière d'utilisation de l'espace public. Mais en tout cas, ce festival, oui, demande une préparation, et comme on a de plus en plus de partenaires assez acquis à cette cause du spectacle dans l'espace public, ouais, c'est pas mal d'avoir 35 ans.
Et comme chaque année, Jean-Marie Songy, le grand public pourra découvrir de nouveaux spectacles de théâtre, de rue et de cirque, et en prendre, on peut le dire, plein les yeux, comme chaque année.
Oui, alors là, il y a une proposition qui est hyper variée, qui d'ailleurs vous emmènera aussi dans des lieux particuliers. On ira évidemment à la scène nationale deux fois. Ça, c'est une première, parce que c'était souvent on y va une fois, mais oui. Là on va y aller deux fois pour deux spectacles, dont un que je peux citer là, qui s'appelle Même, et qui est donc Mauvais endroit, mauvais moment. Et c'est Alice Barrault, une artiste de cirque, qui se trouvait sur les terrasses du petit Cambodge lors des attentats de Paris.
D'accord.
Et qui s'est fait blesser dans des conditions assez violentes, okay. Et qui, oui, s'est reconstituée et qui vient raconter cette histoire-là au théâtre, et donc qui continue à refaire. Oui. On lui avait promis de ne plus pouvoir faire de cirque, et là elle revient et elle va présenter son histoire, elle va prouver le contraire et sa capacité. Alors je dis ça parce que c'est pas du tout le sujet du festival, dans le sens où on est plutôt dehors et dans les espaces publics, mais voilà, il y a ce projet qui est dans une tournée, et on l'a attrapé et ça, c'est un moment assez fort, sachant que nous, évidemment, on est plutôt Charlie Hebdo, quoi. Un peu dans l'irrévérence, un peu dans le décalage, et dans un humour qui est là aussi pour nous décontracter, nous amuser, en sachant qu'on est sur un contexte très compliqué, hein, de international,
donc en termes de la sécurité,
planète qui crame, des conflits, etc. Et voilà, il faut aussi nous accompagner ensemble dans ces moments-là, et bien rigoler aussi, pleurer, rêver, comme vous le disiez. Donc c'est un festival qui a cette capacité-là, hein, et puis danser, faire la fête, parce que Furie, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on n'oublie pas que c'est une sorte de fête du village, hein. Donc il y a quelque chose comme ça, c'est les artistes qui viennent se mettre quand même très à disposition, parce qu'ils sont à des endroits où on peut presque les toucher, oui, pendant qu'ils jouent. Hein. Donc c'est
une belle fête culturelle.
Ouais, c'est ça, ouais.
28 compagnies donc se produiront dans tout Châlons-en-Champagne, mais comme je le disais en introduction, pas seulement. Quelles sont les grandes lignes du programme, Jean-Marie Songy, de cette 35e édition du Festival Furie?
Écoutez, là, donc j'ai déjà un petit peu évoqué le parcours d'Alice, oui, Barrault, mais on aura aussi ces clowns absolument très drôles qui sont des Catalans, trois personnages plutôt des pieds nickelés, c'est-à-dire, oui, que on va passer des choses on va dire tragiques, dramatiques, mais aussi à des moments plus drôles. On ira dans des endroits comme le Petit Jard, on ira au stade Mermoz, on ira à des endroits où on n'a pas l'habitude d'aller, on ira dans le quartier de la vallée Saint-Pierre, on ira au Verbeau.
Voilà, on n'est pas uniquement au centre-ville, on sort. Voilà.
On sort, on sera évidemment de temps en temps sur la place de la République avec notamment les Josiane qui sont un quatuor de deux filles qui vivent une aventure très engagée, assez féministe sur une façade de maison. On ira sur le plan d'eau du Jard. Il y a un spectacle qui va évidemment défrayer la chronique parce qu'il y en a toujours un. Oui. Dans le festival. Il s'appelle le spectacle de merde. Je vous incite à y aller. C'est une sorte de critique sympathique et assez rocambolesque autour de qui on n'ose pas trop regarder et pourtant qui nous font fantasmer, et notamment la marginalité. Oui. que nous vivons un peu dans ce secteur du théâtre de rue et des arts de la rue, c'est-à-dire de ces gens qui sont en errance. Mmh. Même au sein du secteur culturel et artistique, il y a une errance. Et c'est de celle-là dont on va parler. Alors c'est très amusant, c'est plutôt déraillant, inquiétant par moments. Mmh. Bon, c'est un spectacle. Alors, voilà, il faudra être à l'heure. Il y aura pas de la place pour tout le monde. Enfin, c'est un peu. Et puis, bon, voilà, il y aura aussi une sorte de finale. Une équipe qui va nous présenter un spectacle qui s'appelle Combustion. Donc, ça veut bien dire quelque chose. C'est comment on va cramer tout. Donc, c'est plutôt une alerte générale sur la planète. Et c'est un spectacle d'images et de pyrotechnie qui sera au Jard anglais le dernier jour.
Alors un programme assez riche, hein, qu'on peut pas bien sûr présenter aujourd'hui en intégralité. Malgré tout, vous le disiez il y a quelques instants, des spectacles ouverts à tout le monde, hein, à tous les publics. Des fois, c'est libre d'accès. D'autres spectacles imposent quand même une réservation obligatoire. Jean-Marie Changy, il faut le dire, il faut se renseigner sur le site du festival. Hein.
Oui. Alors d'autant plus qu'il y a en plus, on va dire, de cette programmation normale du festival, un focus Art du cirque qui va nous amener plusieurs créations, des maquettes et un parcours professionnel, et où là il y a des endroits où il y a plus ou moins de la place. Donc quand on va à la Comète, évidemment il faut prendre un billet. Alors c'est jamais très très cher, le festival est pas dans les tarifs normaux parce que c'est un festival, donc faut que tout le monde puisse y aller s'il en
ça reste assez accessible pour
voilà,
tout le monde.
Voilà, et le nom des clowns, je les ai retrouvés, c'est Mort de Rire.
Ah bah voilà.
Voilà, c'est Mort de Rire, donc ça sera Mort de Rire, c'est une sorte de trois pieds nickelés.
Oui.
Plutôt incroyable. Bon, enfin, vraiment, pour moi, c'est vraiment c'est une perle dans le festival.
Merci Jean-Marie Songy, directeur de l'association Fury et du PALC, de nous avoir présenté cette 35e édition du festival Fury. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel du festival Fury pour toute la programmation et aussi la réservation. Merci Jean-Marie Songy.
Merci à vous.
La 35e édition du Festival Fury du 4 au 8 juin à Châlons-en-Champagne donc. Merci Jean-Marie Songy, merci Christopher Fausten. On vous laisse vous reposer un petit peu, vous allez pouvoir profiter tranquillement. Mercredi 8 mai, c'est férié, on a une pensée à nos combattants. Jeudi, on fêtera l'Ascension, bien évidemment. On en parlera d'ailleurs vendredi dans le magazine régional avec Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. Il sera notre invité dès vendredi matin à 7h sur RCF Reims-Ardennes. Vous l'avez compris, même si on prend 2 jours de repos en cette semaine un petit peu spéciale, on sera bien là pour vous accompagner vendredi. On vous souhaite à vous aussi de bien vous reposer si vous en avez la chance, et bon courage si jamais vous êtes au travail. Une très bonne soirée, tout de suite l'information nationale sur RCF, et à vendredi avec vos programmes locaux.